Il ira dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voilà. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant ta parole et nous te prions que tu nous remplisses de ton Esprit Saint afin que nous saisissions les choses qui te concernent. Que nos cœurs puissent contempler ton œuvre, que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent connaître ce salut et que tes enfants puissent être édifiés dans ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, c'est un très beau texte hein, que nous avons lu. Je ne sais pas si chaque Noël, peut-être, je ne sais pas, peut-être une fois par an, hein, on le lit ensemble, mais j'espère qu'on peut le lire plus souvent que cela. Si quand on regarde tous ces textes qui sont autour de la naissance de Jésus-Christ, eh bien, il y a beaucoup dans ce qu'on appelle des cantiques, des expressions d'adoration. Hein. Un peu avant, il y avait les versets 47, 46 jusqu'à 56, c'est le cantique de Marie. Hein. On trouve aussi l'adoration d'Élisabeth dans ces passages. Un peu plus tard, il y a Siméon hein, qui vient, qui rencontre Jésus. Puis il y a aussi même Anne, la prophétesse. Et toutes ces personnes, à chaque fois, nous dit l'Écriture, sont remplies du Saint-Esprit et rendent gloire à Dieu pour le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit venu. Je ne sais pas quelle est votre disposition d'esprit à cette période de Noël. Tout à l'heure, le frère a parlé de d'effervescence commerciale. Peut-être il y a ces choses dans nos pensées, je ne sais pas. Mais ce que nous aimerions voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'Esprit de Dieu conduit un homme de Dieu dans l'adoration. Nous disons parfois, voilà, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci ou l'Esprit de Dieu m'a dit cela. Et nous voulons voir, lorsque l'Esprit de Dieu remplit un cœur, comment il le conduit dans une attitude d'adoration. Et ce que l'on a ici, c'est vraiment un très beau, certains appellent ça un cantique, on ne sait pas si c'était chanté ou pas, mais en tout cas, c'est une expression de louange et d'adoration de la part de Zacharie. Et la Bible dit ici, verset 67, que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa, il parla hein, en ces mots. Et j'aimerais souligner le contexte de cette adoration. On a commencé à lire au verset 57 pour cela, c'est la circoncision de Jean-Baptiste. Hein. Ici, il est 8 jours après la naissance de Jean-Baptiste. Je vous rappelle que Zacharie, il était quelque temps auparavant, 9 mois auparavant, il était dans le temple en train d'offrir les parfums, il est sacrificateur, donc c'était son tour d'offrir les parfums. Il a la visite d'un ange, et l'ange lui dit que lui et sa femme, ils étaient déjà avancés en âge, et ils n'avaient jamais eu d'enfant, ils vont avoir un enfant, qu'ils vont appeler Jean. Et puis, Jean, Zacharie est surpris et il demande à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Et puis l'ange lui dit, mais tu n'as pas cru à mes paroles. Et puisque tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de ces choses. Et pendant 9 mois, imaginez, 9 mois de mutisme, c'est beaucoup, hein, on n'arrive même pas à rester une demi-seconde parfois sans parler. Hein. Là, c'est 9 mois où Dieu impose un silence, pas un son n'est sorti de cet homme, et 9 mois après, il retrouve donc la parole juste au moment où le nom est donné à son fils. Et ce qui est assez intéressant de voir ici, c'est que la Bible dit que ses voisins, ses amis, les parents sont là, se réjouissent avec Élisabeth. C'est une fête, c'est la circoncision, c'est le moment où on va donner à l'enfant un nom. Mais lorsque Zacharie retrouve la parole, il n'est absolument pas question de Jean-Baptiste. Il ne loue pas directement Dieu pour Jean-Baptiste. Il ne dit pas « Loué soit Dieu parce que j'ai un fils, parce que Dieu a répondu à notre prière depuis longtemps. » Non, de son cœur sort un hymne tout à la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Et donc nous voulons regarder un peu ce cantique, ce louange, et voir que le thème principal ici de l'adoration de Zacharie, c'est le thème de la rédemption et du salut. Le thème principal de ce cantique, c'est la rédemption. Le contexte, c'est la venue de son fils, mais le cœur de sa louange, c'est la rédemption. Et cela apparaît dès les premiers mots qu'il prononce. Regardez, il dit, verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » D'autres textes plus littéralement disent qu'il a suscité une corne de salut. Hein, ici. Donc voilà, c'est le thème de son cantique. Hein, de 9 mois où il n'a pas pu parler, et quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour parler de Jean, c'est pour exprimer sa reconnaissance à Dieu pour le salut. Et la grande réalité vers laquelle vraiment les cœurs ici ils doivent être tournés, c'est le fait que Dieu est en train de mettre en œuvre son salut. Il faut la plénitude de l'Esprit, c'est pas pour que toutes ces choses soient mises en perspective. Oui, Jean-Baptiste est un sujet de joie pour la famille. Hein, et c'est Élisabeth a prié en disant que son opprobre est enlevé devant les hommes parce que sa stérilité a disparu et qu'elle a pu finalement avoir un enfant. Oui, c'est la perspective d'un grand ministère pour Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur, il sera prophète du Très-Haut. Mais ce sur quoi le Saint-Esprit, à travers Zacharie, attire premièrement notre attention, c'est sur l'œuvre du salut qui est en train de s'accomplir. D'ailleurs, toute l'Écriture, chers frères et sœurs, n'est que l'œuvre du salut, le récit de l'œuvre du salut. Et j'irai jusqu'à dire toute l'histoire du monde n'est que l'histoire de Dieu et l'histoire de la rédemption. Il y a plein d'histoires particulières, la vôtre, la mienne, celle de la famille de Zacharie et Élisabeth avec la naissance de Jean-Baptiste. Mais tout s'inscrit dans la grande histoire que Dieu est en train d'écrire. C'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui l'a fait. Et l'histoire du monde est déjà divisée en deux parties, rien que lorsque nous la datons, nous parlons d'avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et l'histoire de ce monde n'est que l'histoire que Dieu lui-même est en train d'écrire. C'est la grande histoire de la rédemption. Et quand l'Esprit de Dieu remplit un être, un croyant, eh bien, la première pensée vers laquelle son être est focalisé, c'est sur le plan rédempteur de Dieu. Et donc le Saint-Esprit situe ici l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste dans une histoire bien plus grande. Il inscrit la joie de cette naissance dans une joie qui est bien plus grande. Dieu a visité, dit Zacharie, son peuple et lui a suscité un puissant sauveur. Dieu a visité son peuple. Le mot traduit ici par « visiter », c'est un mot qui on prononce episkeptomai. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais simplement pour vous dire, pour vous faire ressentir là-dedans des mots que vous connaissez peut-être. Hein, il y a le mot scope, hein, périscope, télescope, microscope. Hein, c'est des choses avec lesquelles on fait quoi en général? On regarde. Hein, et donc le mot a ce sens-là. Le scopos, c'est regarder. Et puis il y a epi qui est regarder avec soin. C'est le mot qui est utilisé pour, on l'avait dit déjà, pour les évêques, qui sont des, vous connaissez, les épiscopales, hein, on parle de cela, hein, d'accord? Donc c'est les évêques qui sont désignés comme ceci, les anciens. Ce sont les surveillants, ceux qui doivent surveiller de près l'Église, les âmes sur lesquelles le Seigneur les a établies. Et donc, en disant que Dieu a visité son peuple, Zacharie dit qu'il a mené une profonde inspection et qu'il a regardé de près, de manière méticuleuse, et qu'il a en conséquence suscité un puissant sauveur. Donc, dans l'histoire biblique, on apprend que Dieu a visité son peuple à plusieurs endroits. Parfois, le peuple, parfois, il a visité des personnes individuellement. Joseph, par exemple, lorsqu'il est en Égypte, il dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays si, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Donc, chaque fois qu'on parle, la Bible parle du fait que Dieu visite, ce n'est pas comme nous, quand nous visitons, pour aller boire du thé ou du café, mais c'est vraiment une visite dans laquelle Dieu va venir rencontrer le besoin des personnes et répondre à ce besoin. Par exemple, Joseph dit, Dieu vous visitera et vous fera monter. Donc, il verra que vous êtes en esclavage et vous fera remonter en Égypte. Dans le livre de Ruth, vous vous rappelez, lorsque Ruth et son mari sont partis, ils ont quitté Bethléem pour aller dans le pays de Moab, eh bien, parce qu'il y avait une famine à Bethléem, eh bien, son mari, ses fils sont morts, et elle est restée là. Et la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, elle a entendu que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Vous voyez, encore là, il y a pas juste Dieu a visité, mais Dieu a visité et a fait quelque chose. C'est-à-dire que Dieu visite et il répond aux besoins particuliers des personnes. Dieu visite Anne, et puis qui était stérile, et il lui donne un fils. Donc il y a toujours cette compréhension dans le fait de parler que Dieu visite. Dieu a visité donc le peuple souvent en envoyant Moïse pour le délivrer. Il a visité le peuple souvent en envoyant des juges. Vous vous rappelez dans le livre des juges. Mais ici, dans l'adoration de Zacharie, il dit que Dieu a vu de près les besoins spécifiques de son peuple. Et il a pourvu, non pas un juge, non pas un prophète quelconque, mais un puissant sauveur. Littéralement, on a dit tout à l'heure, une corne de salut. Il s'agit ici des cornes qu'avaient les animaux qui symbolisent la puissance, bien souvent, et puis ou alors la force. Donc Dieu n'envoie pas une armée. Dieu n'envoie pas des provisions, des armes, un juge, un roi politique, mais il envoie un puissant sauveur. Et nous savons que ce puissant sauveur, c'est la personne même de Jésus-Christ, la seconde personne de la Trinité. Et nous voulons nous réjouir de cela. Zacharie, je ne sais pas ce qu'il pouvait voir de ce côté-là de l'histoire, mais nous, de ce côté-ci de l'histoire de la rédemption, nous pouvons saisir avec beaucoup plus d'acuité l'ampleur de ce salut qui a été apporté. Un sauveur, dit-il, qui délivre de quelque chose. Regardez au verset 69, il dit « Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, c'est 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. » Le sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Mais de quels ennemis parle-t-il ici? La Bible ne présente pas Dieu comme celui qui délivre seulement du joug militaire ou politique. De l'invasion de l'étranger. Elle présente vraiment Dieu comme celui qui délivre de quelque chose de plus profond. Et les ennemis dont il est question ici, bien sûr, on peut penser comme le peuple d'Israël le pensait dans un premier temps à ses ennemis politiques, mais bien plus que cela, quand on lit l'histoire de la rédemption, on comprend à travers tous les textes qu'il est question ici d'une délivrance bien plus grande que la délivrance des ennemis. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Colossiens que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Donc les ennemis dont il est question ici sont le péché, le diable et la mort. L'apôtre Paul dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et donc il est question ici de cette délivrance, et quand on lit un peu plus loin, dont parle ici Zacharie, délivrance non pas simplement des ennemis, de ceux qui, comme il le dit, de ceux qui nous haïssent, mais de cette mort qui est notre, qui est la conséquence ici du péché. Dieu nous délivre, il est venu pour nous délivrer de cet ennemi-là. Et cet ennemi-là, il sera complètement anéanti. Donc un sauveur qui délivre parfaitement de la mort, mais un sauveur qui délivre pour quelque chose aussi. Regardez, il dit ici, au verset 73, il dit que selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Alors on comprend bien que ce n'est pas simplement qu'une délivrance militaire dont il parle ici, parce qu'il est question de marcher dans la sainteté et dans la justice. C'est une délivrance vraiment spirituelle, donc une délivrance de la mort, du péché, des conséquences du péché, mais une délivrance pour marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce n'est pas juste nous délivrer puis nous poser sous le bord de la route, mais c'est délivrer pour quelque chose de particulier. Et l'Évangile atteste de cela. L'apôtre Paul, quand il parle des Thessaloniciens, il dit, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas juste en vous... on raconte comment vous vous êtes convertis, point. Dieu vous a sauvé, point, non. Vous avez été sauvés pour vous détourner des idoles et pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans l'épître aux Éphésiens, il dit que Dieu, que nous avons, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été, comment dit-il ça, je cherche le mot, prédestiné, c'est ça qu'il dit, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je lis Éphésiens 4, verset 21, où il dit, vous avez été instruits. Quand il parle de l'homme nouveau, ici, il dit, vous avez été instruits à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. On retrouve nos deux mots, sainteté et justice. Justice et sainteté, que produit la vérité? Vous avez été sauvés pour servir, dit Zacharie. Il va nous délivrer et nous rendre capables de servir Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. C'est ce qu'il expose, c'est ce que par le Saint-Esprit, il expose dans ce cantique lorsque son Fils vient au monde. Il ne pense pas à son Fils, il pense à ce salut. Ce puissant sauveur que Dieu a pourvu pour eux, mais on sait aussi par la suite qu'on peut dire pour tous ceux à travers tous les âges que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé. Notons aussi ici le caractère de cette adoration. Donc je crois que le thème principal, il est bien là, c'est vraiment le salut, et on va le voir encore un peu plus loin. Il parle de la délivrance, de la connaissance du salut qui doit être apporté par Jean-Baptiste, par le pardon des péchés. Donc on voit encore, ça n'est pas que ici une délivrance militaire, mais c'est vraiment une délivrance spirituelle de la conséquence du péché. Il parle de ceux qui sont assis un peu plus loin dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Il dit que que Jean-Baptiste est envoyé avant pour éclairer ces personnes, mais c'est Dieu lui-même, dans l'évangile de Jean, on le voit, Jésus-Christ lui-même, qui est la lumière du monde, cette lumière qui éclaire vraiment, vraiment tout homme. Donc cette délivrance, ce salut dont il parle ici, c'est vraiment le salut spirituel, la délivrance des âmes, du péché et de la condamnation, de la colère de Dieu. Mais regardez un peu ce sur quoi il met un peu l'emphase, je trouve, c'est la fidélité de Dieu dans son alliance, à tenir ses alliances. Il dit ici, regardez au verset 72, même au verset déjà au 70, il dit, Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes. Et puis un peu plus loin, verset 72, il dit « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. » Voilà, ça fait référence au passé, à sa fidélité. « Et se souvient de sa sainte alliance. » Et l'une des grandes vérités de l'Écriture est que Dieu est un Dieu d'alliance. Hein? Dieu est un Dieu d'alliance. Zacharie ne loue pas Dieu pour une nouveauté, hein? Pour quelque chose que personne ne connaissait avant et que l'Esprit de Dieu lui révèle. Ce qui le remplit vraiment de joie, c'est la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses, à garder son alliance. Et ça le remplit, c'est quelque chose qui le remplit de joie. On le sent dans ce qu'il exprime à travers ce cantique. La grande promesse de Dieu, elle est dans Genèse chapitre 3, verset 15. Lorsque Dieu prononce une malédiction contre le serpent, et dans cette malédiction se trouve la promesse des promesses que Dieu fait juste après que l'homme ait péché. Et ça, vous devez, chers frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, connaître à ce passage où Dieu dit au serpent que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Certes, il lui blessera le talon, mais la postérité de la femme lui écrasera la tête. Et tout le reste de l'Écriture est la mise en œuvre de cette promesse. Comment Dieu a gardé cette promesse à travers tous les âges, tous les siècles. Que vous preniez n'importe quelle histoire dans l'Écriture, ce ne sont pas des histoires disparates, faites pour raconter, pour montrer des miracles, etc. Tout est là pour montrer comment Dieu tient sa promesse tout au fil du temps, des décennies et des millénaires. Et donc, lorsqu'on arrive à l'an, on pourrait dire un peu à l'an zéro ici de notre ère, Zacharie éclate en joie sous l'inspiration du Saint-Esprit parce que il peut voir que Dieu tient sa promesse. Cette promesse qui a été faite dans le jardin d'Éden, il la tient. Il la tient à travers ce qu'il a dit à Abraham, ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit à David, hein, et maintenant qui va se réaliser en la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui le remplit ici de joie. Ce qui est vraiment caractéristique ici, c'est qu'il montre que Dieu établit non seulement son alliance, mais qu'il est fidèle ici à son alliance. Et il parle, pas prendre beaucoup de temps pour le montrer, mais de deux alliances. Il parle de la maison de David et puis il parle d'Abraham. Et quand on lit les Écritures, on trouve ce que Dieu a donné comme promesse ici à Abraham et puis aussi à David. Dans 2 Samuel chapitre 7, au verset 11, il est question de l'alliance que Dieu fait avec David. Donc, Zacharie est conscient que le Messie doit venir de la maison de David. Et il sait que Marie, de la lignée de David, qu'elle est enceinte, dans toutes ces choses, et il rassemble tout cela dans son esprit, et il peut louer Dieu parce qu'il voit que Dieu non seulement répond, suscite un sauveur, mais il le fait dans les termes qu'il avait déjà définis dans le temps passé. C'est ça qui est important. Ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà et dans lequel il peut mesurer profondément la puissance et la fidélité de Dieu. Donc en 2 Samuel 7, on va pas prendre le temps de lire tout ça, mais en 2 Samuel 7, verset 11, on trouve ici l'alliance que Dieu a fait avec David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Vous vous rappelez un peu ce que David voulait faire? Au bout d'un moment, David réfléchit et il dit qu'il veut construire une maison à l'Éternel. Et Nathan lui dit, fais ce qui est selon ton cœur, de Samuel chapitre 7. Mais Dieu envoie tout de suite Nathan voir David et lui dit non. Il lui dit, ce n'est pas toi qui me bâtirais une maison, mais moi je vais te bâtir une maison. Et David voulait bâtir une maison de pierre, un temple, il dit même, pour que l'arche de Dieu puisse résider dans ce lieu. Mais Dieu dit, moi, je te bâtirai une maison. Et pas une maison de pierre. Hein, on pense qu'il s'agit d'une lignée, d'une destinée. Et c'est l'alliance que Dieu fait avec David. Et il dit au verset 11, l'Éternel t'annonce, c'est ce que Nathan dit à David, qu'il te créera une maison. Et ce n'est pas lui qui va construire une maison pour Dieu, c'est Dieu qui va lui construire une maison. Et Dieu, un peu plus tard, il dit, verset 16 de Samuel 7, il dit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Alors bien sûr, quand on lit ça, on pense à sa descendance immédiate, à Salomon, hein, qui va construire, lui, le temple et qui va monter sur le trône. Mais il devient de plus en plus clair quand on lit l'Écriture et l'Ancien Testament que cette promesse visait quelqu'un d'autre, de bien plus grand que Salomon. Et quand on arrive au prophète Ésaïe, chapitre 9, hein, on a lu tout à l'heure, la sœur a lu tout à l'heure le verset 5 de ce chapitre, qu'il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et puis il dit « Donnez de l'empire à l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'armée de l'Éternel. » Donc cette maison, hein, dont il est question dans 2 Samuel, ici, c'est cette maison de David, ce trône de David dont il est question ici, ce n'est pas un trône sur lequel seront uniquement des descendants humains. Il est question ici du grand roi qui vient de la postérité de David, de la personne même du Messie. Et c'est de lui dont il est question dans cette promesse, dans cette alliance que Dieu établit avec David. Et David, lui-même, quand il parle de cette alliance, il dit un peu plus loin dans 2 Samuel chapitre 23, il dit « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ? N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» Il dit que Dieu a fait avec lui une alliance éternelle, en tout point bien réglé, dit-il, 2 Samuel 23, versets 2 et 5, et il dit, et offrant une pleine sécurité. Voilà, hein, on a ici les caractéristiques déjà de cette alliance, on sent poindre même les caractéristiques de la nouvelle alliance à travers ce qu'on lit ici. Zacharie donc se réjouit parce qu'il sait, quand il voit l'arrivée de Jean-Baptiste, il sait que le Messie, l'arrivée du Messie est imminente, et que cela répond parfaitement à toutes les promesses qui sont contenues dans l'Ancien Testament. Mais il souligne aussi que cette fidélité de Dieu, il souligne le fait que Dieu n'oublie pas sa fidélité, n'oublie pas son alliance avec Abraham. Il parle de l'alliance avec ses pères, Abraham, Isaac, bien sûr, et Jacob. Et il appelle cela une sainte alliance conclue selon un serment par lequel Dieu a juré à Abraham. Bon, encore ici, c'est cette fidélité, le fait que Dieu ait juré, que Dieu va garder son alliance, c'est quelque chose qui est présent à son esprit et qui le remplit de joie. Et l'alliance avec Abraham, on la trouve en Genèse chapitre 12, où Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette alliance est répétée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et elle est confirmée, par exemple, en Genèse chapitre 22, verset 16 à verset 18. Mais elle est ratifiée d'une manière assez particulière dans Genèse chapitre 15. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage en Genèse chapitre 15. Prenez votre Bible en Genèse 15 et on va regarder au verset 9. Genèse 15, verset 9, ici. Genèse chapitre 15 et au verset 9. Même à partir du verset 7, il est dit L'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner une possession en ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéréziens, des Camdoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgaziens et des Jébusiens. » C'est un rite un peu étrange, n'est-ce pas, que ce rite-là ici, mais du temps d'Abraham, les serments étaient faits un peu comme cela, en coupant les animaux en deux et les parties qui contractaient, un serment passait au milieu de ces animaux. Et c'était comme pour dire, bien, si nous ne tenons pas notre serment, qu'il en soit fait ainsi de nous, que l'on soit coupé en deux comme sont coupés ici ces animaux. Mais les deux parties passaient entre les animaux. Et on trouve, par exemple, et celui qui ne respectait pas cela s'exposait à un grand déshonneur. En Jérémie chapitre 34, par exemple, Dieu dit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. » Voyez. Et donc, c'est-à-dire que quand on faisait cela, c'était un engagement qu'on ne pouvait pas rompre. Et il dit, celui qui rompt cet engagement-là, il se met sous une condamnation. Et un peu plus loin, il dit, « Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. » Ils sont passés, ils ont fait ce pacte, cette alliance avec ce rite, et ils n'ont pas observé ce qu'ils ont contracté. Et en Genèse, ici, 15, c'est Dieu qui passe entre les morceaux. La Bible dit qu'il y a une flamme est passée. Ce n'est pas Abraham qui passe entre les morceaux, c'est Dieu tout seul qui passe entre les morceaux. Et cela évoque le caractère, on pourrait dire, unilatéral et inconditionnel de l'alliance que Dieu établit avec Abraham. Abraham n'est pour rien dans cette alliance. C'est Dieu lui-même qui passe entre les morceaux. Et c'est comme si, on pourrait dire, Dieu disait, eh bien, qu'il soit fait de moi pareillement si je n'observe pas mon alliance. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense que Zacharie a dans l'esprit le fait que Dieu a fait la promesse à Abraham, qu'il a contracté, qu'il a fait un serment par lequel il a ratifié cette alliance. Et quelle joie, quelle grâce de voir qu'il est en train de réaliser maintenant cette alliance. Abraham n'a pas coécrit les termes de l'alliance avec Dieu. L'alliance émane de Dieu seul, parce que c'est lui seul qui passe entre les morceaux. Mais cela signifie aussi que l'alliance, elle est irrévocable et éternelle, parce que Dieu est un Dieu qui ne ment point. La Bible dit qu'il est celui qui garde son alliance. Et vous voyez, quand on lit, par exemple, on n'a pas le temps de voir tout cela, mais quand on lit l'Épître aux Hébreux, par exemple, Hébreux chapitre 6, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il parle de cela, regardez rapidement, Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6 et au verset 13. Hébreux chapitre 6 au verset 13, il dit Hébreux chapitre 6 verset 13, il dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je crois que Zacharie a saisi l'espérance qui était proposée dans tout ce qu'il a lu dans l'Ancien Testament. Et il connaissait toutes ses promesses, il connaissait toutes ses alliances. Et quand cela arrive, il pouvait louer Dieu avec un cœur reconnaissant. Et quand l'Esprit de Dieu le remplit même, l'Esprit de Dieu le conduit à travers les textes de l'Ancien Testament afin qu'il puisse louer Dieu et mettre en évidence pour Zacharie le fait que Dieu tient son alliance. Il se rappelle toujours de Psaume 105, de son alliance. Il se rappelle toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Psaume 105, versets 8 à 10. Dieu tient sa promesse. Et c'est ce que je pense sur lequel Zacharie met ici l'emphase. Et puis, on arrive au verset, on reprend Luc chapitre 1, au verset suivant, où il parle de Jean-Baptiste. Donc, Luc 1. Et il dit ceci, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » On se rappelle qu'on est dans la cérémonie de circoncision de Jean-Baptiste. Et là, il prend son fils et il dit, « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Et notez qu'il ne dit pas, « Et toi, Jean, et toi, mon fils, mais et toi, petit enfant. » Et lui importe peu de présenter Jean comme par son nom, comme étant son fils, mais plus par sa mission, le fait qu'il sera le prophète du Très-Haut. Et là encore, Zacharie va citer l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 40, où il est question de la venue de Jean-Baptiste, et il dit « Tu seras prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. » Et là, c'est la mission principale de Jean-Baptiste. Donner au peuple la connaissance du salut, ici. Son ministère est de, je pourrais dire, redresser la pensée de ses compatriotes sur la nature du salut qui vient. Les Juifs attendaient un libérateur politique, ils attendaient une délivrance politique, une délivrance du joug, de la servitude des militaires, peut-être des Romains. Et ce salut qui vient n'est pas un salut de cette nature-là. Et ici, Zacharie dit que le ministère de Jean-Baptiste, c'est de donner au peuple la connaissance juste du véritable salut de Dieu. Il fallait un lavage de cerveau, il fallait une préparation. C'est pour ça qu'il dit qu'il va préparer le chemin du Seigneur. Il ne donne pas le salut, Jean-Baptiste. Il ne délivre pas, Jean-Baptiste. Mais il donne la connaissance de ce salut-là. Voilà quels sont les termes du salut. Et il dit, ici, regardez bien, le salut par le pardon de ses péchés. Et quand on lit le ministère de Jean-Baptiste, on voit combien il a appelé les gens à se tourner vers Christ, à se repentir. Il a vraiment présenté le salut par le pardon des péchés, afin de donner au peuple donc la connaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce, ici, il ajoute aux entrailles de miséricorde de notre Dieu. Non pas grâce à une quelconque œuvre, mais en vertu de la miséricorde de Dieu. Et quand vous lisez les textes de la Nativité, il est plusieurs fois question de la miséricorde de Dieu. Zacharie parle de la miséricorde de Dieu. Marie parle de la miséricorde de Dieu dans son cantique. Élisabeth parle aussi de la miséricorde de Dieu. C'est en vertu de sa miséricorde que Dieu accorde ce salut. Dieu a fait une promesse en Genèse 3:15. Il tient sa promesse tout au long de l'histoire. Et il accomplit, il réalise cette promesse. Et il le fait non en vertu de quelconque œuvre qui aurait pu avoir lieu dans une quelconque personne, mais il le fait en vertu de sa propre miséricorde. La Bible dit même qu'il est avec des entrailles de miséricorde. Tout à l'heure, on a lu, je crois, dans Jacques, que si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et ici, il est question des entrailles de miséricorde, de la tendre miséricorde de Dieu qui vient pour répondre aux besoins des hommes. Ici, cette miséricorde, bien sûr, est la source, la base sous laquelle Dieu agit. Ici, l'apôtre Paul dit que lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsque, dit-il, la bonté de Dieu se manifeste, elle se manifeste en vertu de sa miséricorde. Et cela remplit de joie le cœur de Zacharie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'accomplissement des promesses, de toutes les promesses de Dieu. La Bible dit que c'est en lui qu'est l'Amen. Et vous savez, ça se rapporte à l'Ancien Testament encore, en Deutéronome chapitre 27, lorsque, à un moment donné, je crois que c'était Josué, doit lire toutes les lois, les bénédictions et les malédictions au peuple. Et à chaque fois, le peuple répondait « Amen, Amen, Amen ». C'est-à-dire, et pour la bénédiction, et pour la malédiction. Qu'il en soit ainsi. Donc, comment on dit, le peuple acceptait qu'il leur soit fait selon les termes de la loi. Mais nous savons bien que le peuple n'a pas pu observer la loi. Quel est celui qui a pu dire le véritable « Amen » L'apôtre Paul dit que c'est Jésus-Christ. En lui est l'Amen. C'est-à-dire qu'il a à la fois subi la malédiction pour que nous puissions subir la bénédiction. C'est ce que la Bible dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Voilà. Il est celui qui est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. À la fois, d'accord, il nous accorde la bénédiction, mais en même temps, il subit la malédiction. Les promesses de bénédiction de Dieu sont en lui, mais les promesses de malédiction aussi, parce que Dieu est un Dieu juste qui ne laisse pas le coupable impuni, eh bien, elles sont punies en Jésus-Christ aussi. Et voilà pourquoi il est le centre, il est celui que nous voulons adorer. Zacharie, et on ne sait pas, je ne peux pas dire quelle était la vision, la pensée, la connaissance de Zacharie sur toutes ces choses, mais je crois qu'elle était beaucoup moindre que la nôtre. C'est-à-dire, en termes de révélation, il avait moins de révélation que nous en avons. Il ne regardait que par rapport à ce qui se passait avant la venue de Jésus-Christ. Tout ce qu'il dit est tiré de l'Ancien Testament. Chaque phrase qu'il prononce ici, et vous pouvez les prendre, chaque phrase du cantique de Zacharie est une allusion à l'Ancien Testament ou même une citation directe de l'Ancien Testament. Depuis le « béni soit Dieu » jusqu'à « pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres », etc. Tous sont tirés de l'Ancien Testament. Et donc, on voit ici un homme qui était pétri, c'était un sacrificateur, donc il enseignait les textes de l'Ancien Testament. Il était pétri de la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur lui, ça n'est pas pour lui faire une révélation nouvelle, mais c'est pour le conduire encore davantage dans ce qui a déjà été écrit, dans la parole. Et donc, je voudrais terminer avec quelques mots de conclusion pour dire que lorsque l'Esprit pousse à la louange, il le fait toujours, chers frères et sœurs, en dirigeant selon l'Écriture. Lorsque l'Esprit de Dieu pousse à la louange, il le fait toujours en dirigeant selon l'Écriture. Toute la louange de Zacharie, je dis, n'est que citation de l'Ancien Testament. Et donc, on voit l'importance pour nous de connaître les Écritures. Ça n'est pas que l'Esprit a révélé à Zacharie des choses qu'il ne connaissait pas. D'accord ? C'est qu'il a pris des choses qu'il connaissait déjà, qu'il enseignait déjà, et c'est ça qui a constitué le corpus de son adoration. Il est important pour chaque enfant de Dieu de connaître profondément l'Écriture. Il est impossible d'adorer Dieu sans connaître l'Écriture. Et l'Esprit prend notre connaissance de l'Écriture, d'accord, pour nous permettre d'adorer Dieu. Donc celui qui laisse sa Bible fermée et qui dit « j'adore Dieu », c'est impossible. C'est impossible. La vraie adoration nécessite une vraie connaissance de Dieu. Et c'est ce qu'on voit et dans le cantique de Marie et dans le cantique de Zacharie. Elles sont remplies essentiellement de citations bibliques de l'Ancien Testament. Et ça, c'est une exhortation pour nous. La Bible fournit pour l'âme chrétienne l'expression la plus profonde et la plus vraie de tous ces sentiments, n'est-ce pas? C'est pas dans les rayons d'un coucher de soleil ou dans le chant mélodieux des oiseaux que Zacharie trouve de quoi exprimer ses sentiments, mais dans l'Écriture. Donc c'est, je veux dire que quand on veut exprimer des fois des choses, on dit « Ah, je connais quelqu'un, enfin un chant dans lequel il est dit, ben, je ne sais pas comment te louer, je ne sais pas que dire, quel mot trouver, alors entends mon cœur. » Mais je trouve ce cantique qui n'est pas théologiquement correct. Il n'est pas théologiquement correct, parce que mon cœur, il dit quoi? Je ne sais même pas ce que mon cœur dit, et non, l'adoration est quelque chose de sensé, de cognitif, et qui repose sur l'Écriture, et c'est avec l'Écriture, à travers l'Écriture, que nous pouvons trouver même les expressions les plus belles de notre adoration. On trouve ce passage, enfin j'espère que vous trouvez ce passage beau et profond, mais ce n'est que du texte de l'Ancien Testament. Et pourtant, avec cela, on voit comment Zacharie, le cœur de Zacharie est en joie et comment le Saint-Esprit le conduit pour que cette adoration soit poétique, soit belle et soit profonde. On peut dire que Dieu est grand en regardant la nature, juste, les fleurs, les animaux. On peut dire cela, mais on ne peut pas dire que Dieu s'est souvenu de sa Sainte Alliance, à moins qu'on ait lu l'Écriture. On ne peut pas dire que Dieu a suscité un puissant sauveur, comme il l'avait annoncé par la bouche des prophètes, qui vient de la maison de David, à moins que l'on connaisse l'Écriture. On ne peut pas dire que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham et qu'il a contracté par un serment, à moins que nous ayons lu l'Écriture. Et c'est là que se trouve notre source profonde de joie, dans le fait que Dieu est un Dieu fidèle, qui contracte son alliance, qui garde son alliance jusqu'à la fin et pour toujours. Et puis, je dirais, il n'y a pas de véritable adoration spirituelle sans véritable attente ou espérance. Quand on lit le cantique de David, de Zacharie, on voit qu'il attendait. Et quand on lit le reste du texte de la Nativité, Siméon attendait la consolation d'Israël. Anne va parler à ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Et quand on n'attend rien, lorsque les choses se produisent, on n'a pas de raison de se réjouir. Et je crois que ce qui fait la force de la adoration de Zacharie aussi, c'est qu'il attendait. Il attendait le Messie. Il méditait sur tous ces textes qu'il avait. Il les connaissait par cœur. Il était dans cette attente de la venue de ce sauveur que Dieu avait promis. Merci. J'ajoute aussi que le plus grand désastre qui soit pour les hommes, c'est l'obscurité spirituelle dans laquelle ils se trouvent lorsqu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça n'est pas l'économie notre plus grand problème, ça n'est pas le chômage, ça n'est pas le climat. On peut se battre pour sauver le climat, ce n'est pas le climat qui a besoin d'être sauvé. Ce sont les hommes qui sont dans les ténèbres. La Bible, on le voit dans ce texte, il dit que le Sauveur vient pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est une citation d'Ésaïe chapitre 9. Assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Voilà ce de quoi on a besoin d'être sauvé. Ça n'est pas du climat qui est déréglé, ça n'est pas des tempêtes qui se multiplient, ça n'est pas du réchauffement de la planète, c'est de la condamnation du péché. Du fait que si on ne se tourne pas vers Christ, eh bien, nous sommes voués à l'enfer, c'est ce que la Bible dit. Et le Messie est venu pour nous délivrer, pour délivrer ceux qui placent en Jésus-Christ leur confiance en Jésus-Christ, il est venu pour les délivrer de la mort, de la colère de Dieu, de l'enfer et de leur péché. Et ça, c'est le message que l'on peut certainement saisir de ce passage qui est là devant nous. Et puis, je dis aussi que la plus grande œuvre qui soit pour un chrétien est celle de donner la connaissance du salut. Je ne sais pas quelle est notre ambition pendant ce temps de Noël, mais on voit ici que Zacharie prend son fils et lui dit « Toi, petit enfant, tu seras prophète du Très-Haut pour donner la connaissance du salut. » Voilà quel est le ministère qui est confié à chaque enfant de Dieu. Donner aux autres la connaissance du salut. C'est pour cela que la Bible appelle Zacharie, pas Zacharie, Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Jésus dit, il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean-Baptiste. Il dit, parmi tous les hommes nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ça paraît étrange, n'est-ce pas? Et quand on pense à Moïse, à un Ésaïe, à un Élie, Jésus dit, il n'y a pas eu de personne plus grande que cet homme-là. Mais il ajoute en plus, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Et quelqu'un faisait remarquer, je le cite, que Jean-Baptiste était plus grand, pas dans le fait qu'il ait fait plus de miracles ou qu'il avait plus de compétences, mais dans le fait qu'il est celui qui a pu montrer plus précisément qui est le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit, ils voyaient de manière trouble, ils savaient qu'il y avait des choses, mais ça n'était pas encore correct pour eux. Même pour Jean-Baptiste, rappelez-vous, quand il était en prison, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie de ses disciples pour voir Jésus et puis lui dire, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce qu'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas encore. Mais Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que nous maintenant qui sommes plus petits que tous ces hommes-là, nous avons plus de révélations. Jean-Baptiste est mort avant que Jésus soit crucifié. Doctrine de la justification par la foi écrite par l'apôtre Paul, je ne crois pas qu'il ait su ce que c'est. Mais nous avons toute la révélation. D'où notre responsabilité de faire connaître avec plus de précision le salut. Nous avons une mission, c'est celle de donner le salut. La connaissance, pardon, du salut. C'est Christ qui sauve, mais de donner la connaissance du salut. C'est la mission que le Seigneur confie à chacun de ses enfants. Et celui qui peut être investi dans ce ministère, il a une grande œuvre. Que notre ambition ne soit pas seulement d'être le PDG, je ne sais pas de quoi, ou le plus grand sportif, ou le plus grand musicien, je ne sais d'où, que notre désir le plus grand, indépendamment de ce que l'on peut avoir comme métier, comme profession, etc., soit de donner la connaissance du salut. Et je crois que c'est un encouragement que je voudrais nous laisser en ce temps de Noël, que le Seigneur nous aide dans cette mission de le faire connaître. Il n'y a pas de plus grande mission pour l'enfant de Dieu que de pouvoir donner la connaissance du salut. Voilà, Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit, a une louange qui est christocentrique. Il parle de la rédemption, parce que toute la Bible, c'est l'œuvre de la rédemption. Mais il est profondément ému par le fait que Dieu est un Dieu qui garde son alliance. Voyez ? Et parfois, nous pouvons être découragés parce que nous regardons à nos péchés, à nos fautes, à nos manquements. Et nous oublions de regarder à celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous devons demander à Dieu pardon lorsque nous regardons trop à nous-mêmes et pas assez à ce qu'il a fait, à sa fidélité. C'est ça qui nous sauve. C'est pas combien nous sommes capables d'être émus par nos péchés qui nous sauvera de quoi que ce soit. C'est le fait de nous appuyer sur Dieu, sur ses promesses et sur sa fidélité à ses promesses. Zacharie, c'est ainsi qu'il a tenu. C'est pour cela qu'il a pu adorer Dieu d'une manière spirituelle. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et nous savons que nous sommes passés vite sur ces choses si profondes qui sont dans tout ce texte. Et que ton esprit nous aide encore à méditer ces versets, à avoir l'attitude de cet homme, de ce serviteur, Zacharie, rempli de ton Esprit Saint, connaissant profondément ta parole, méditant tes promesses, qui a pu se réjouir lorsque ces choses ont pour lui une révélation plus claire. Seigneur, nous sommes devant toi avec plus que n'avait Zacharie ou Jean-Baptiste. Et quand tu étais sur la terre, tu as dit que les personnes de Sodome et de Gomorre seront jugées moins sévèrement que ton peuple parce qu'ils avaient moins. Eux, ils avaient Christ et ils ne se sont pas tournés vers lui. Et nous, tu nous dis aujourd'hui que probablement ceux de l'époque d'Israël seront jugés moins sévèrement que nous parce que nous avons toute la révélation de ta parole. Nous avons plus qu'ils n'ont pu avoir. Et nous constatons parfois que dans nos vies, il manque cette attitude d'adoration spirituelle basée sur ta parole, sur tes promesses. Seigneur, pardonne-nous et incline en ce temps où nous allons nous souvenir de ton incarnation, incline nos cœurs vers ta parole et que par ton esprit, nos cœurs débordent d'une réelle adoration. Nous te prions pour les personnes ici qui ne te connaissent pas, afin qu'elles soient touchées par ton Esprit Saint. Seigneur, qu'elles puissent considérer les ténèbres dans lesquelles elles sont, le risque majeur dans lequel elles se situent et qu'elles puissent saisir ta main. Touche-les, arrache-les, nous t'en prions. Ton nom est pour ta seule gloire. Amen.